Monumental
en nouvelle diffusion.
Rome Monumental, 18 juillet 64, sous le règne de l'empereur Néron.
Monumental. Johan Ducey. Réalisation Christian Moreau.
Rome, peuplée d'un million d'habitants. Rome est en feu.
Bonjour, je m'appelle Catherine Sall. J'étais enseignante à l'université de Nanterre. Je suis l'auteur d'un certain nombre de livres sur l'Antiquité, un peu dans tous les sens. Et je viens de publier un livre sur le grand incendie de Rome, celui auquel est relié Néron, en 64 après Jésus-Christ.
Ce jour-là, en 64, commence le plus grand incendie qui a ravagé une capitale de l'ère moderne. Il faudra attendre celui de Londres en 1666 pour que se reproduise dans le monde occidental un embrasement comparable.
Comment était Rome avant la catastrophe de 64 ?
Rome n'a pas un site rêvé pour une ville, parce que c'est un site exceptionnel pour la vue, pour tout ce qui est beau, mais c'est tout à fait difficile d'habiter dans cette ville, étant donné que il y a tout un amphithéâtre de collines qui borde la ville de Rome, et puis on a le Tibre sur la droite de la ville de Rome, sur 9 kilomètres, donc c'est toujours un peu difficile de circuler dans Rome.
C'est une ville moderne à l'époque, une ville que l'on entretient.
Ah oui, elle est très bien entretenue. Simplement, je vous dis, il n'y a pas de plan d'urbanisme. Et ce qui fait qu'il y a beaucoup de petites rues, il y a des grandes ouvertures qu'ont faites les empereurs pour mettre des monuments. Mais à côté de ça, c'est une ville très bien entretenue sur le plan en particulier de la sécurité. Parce qu'il y a beaucoup de groupes d'hommes armés qui gardent le... théoriquement, en tout cas, la sécurité dans les villes. Et puis, il y a tout l'approvisionnement en eau qui est pas mal fait à Rome. Il y a beaucoup, beaucoup d'arrivées d'eau. Mais évidemment, c'est une ville dans laquelle habitent probablement 1 million d'habitants. C'est un chiffre énorme pour l'Antiquité. Et ces 1 million d'habitants posent évidemment beaucoup de problèmes de sécurité, de nourriture, de tout ce que peut entraîner une ville, même bien entretenue.
Les réalisations colossales de Rome, stades, palais, routes, aqueducs, couvrent 3 continents. Ils concrétisent la puissance et les promesses de la civilisation la plus avancée du monde.
Quels sont les grands monuments de l'époque ?
Alors, à l'époque de Néron, il y a déjà les grands forums qu'ont construit César et Auguste, qui sont des œuvres magnifiques avec de très vastes étendues, avec une statue au centre, avec tous les portraits des hommes illustres de Rome. Il y a aussi tout ce qu'a fait Agrippa plutôt qu'Auguste sur le champ de Mars, où il y a énormément de monuments. Tout a été revu par Auguste, qui disait, quand il est mort, il disait « J'ai reçu une ville en pierre et je la laisse en marbre ».
Rome, à l'époque, c'est une ville cosmopolite.
Tout à fait cosmopolite. Il y a des habitants de du monde entier connu par les anciens. Et tous ces gens viennent ou bien pour trouver du travail, ou bien parce qu'il y a le miracle de la grande ville. On pense qu'à Rome, tout est facile, tout est beau, on pourra travailler, on aura des distractions. Et donc, c'est une ville qui attire énormément de gens, plus les marchands, plus les commerçants venant de l'étranger, plus bien entendu toutes les sectes religieuses qui habitent à Rome et qui sont tout à fait autorisées.
Comment y vit-on à Rome ? Quelle est la vie quotidienne des Romains ?
Oh, elle est à peu près comparable pour tous les Romains, c'est-à-dire qu'ils se lèvent très tôt. Ils se lèvent au lever du soleil, donc ça, les heures vont dépendre selon les périodes de l'année. Ils prennent un petit morceau de fromage ou un fruit quand ils se lèvent. Ensuite, ils vont en ville faire leurs activités habituelles ou rendre visite à de grands personnages lorsqu'on est un noble. À midi, ils ne mangent pour ainsi dire pas non plus. Ils se contentent de quelques fruits, quelques amandes, quelques noix, enfin très très peu. Et puis l'après-midi, à l'époque de Néron, est occupé par les bains. parce qu'il y a des thermes extraordinaires à Rome, et il est naturel pour un Romain, quelle que soit sa condition sociale, ça va du plus riche au plus pauvre, de l'homme libre à l'esclave, du vieux à l'enfant, tout le monde se retrouve aux thermes. Alors il y en a déjà un certain nombre dans Rome, et on voit donc sa journée, soit à aller dans les bains des thermes, soit surtout à discuter avec les voisins qu'on retrouve dans les galeries des thermes.
Mais la vie est difficile pour les gens ?
La vie est très difficile pour les plus pauvres, évidemment, comme dans toute ville. C'est-à-dire qu'ils n'ont pour ainsi dire pas de quoi manger. Ils vivent très pauvrement dans des habitations qui ne sont pas du tout prévues pour eux. Tout présente un danger pour ces gens. Mais ils préfèrent être à Rome que de rester en Grèce, en Syrie, enfin dans tous ces pays qui sont leur pays d'origine.
Cette surpopulation n'augure rien de bon. Pour loger tout ce monde, on construit dans les vallées des immeubles appelés insulae.
Extrait du documentaire « La Rome de Néron ».
Ces bâtisses de 7 ou 8 étages représentent un danger pour la ville tout entière. Les murs, faits de mortier et de gravier, sont soutenus par des poutres. Le bois est partout dans ces immeubles. Un simple mur sépare deux insulae. Si ces constructions ne sont pas assez soutenues, le bâtiment s'effondre, ce qui arrive fréquemment.
Est-ce qu'il y avait souvent des incendies dans la ville de Rome ?
Oui, il y en avait à peu près tous les ans, hein, des incendies. C'est vrai que celui de 64 a laissé une trace parce qu'il était exceptionnel. Mais quand on lit les historiens comme Tite Live ou comme Tacite, on voit qu'il y a des tas d'incendies. Et d'ailleurs, il y aura, peu de temps après le grand incendie du règne de Néron, il y aura un aussi grand incendie sous le règne de Vespasien, c'est-à-dire en 70. Donc vous voyez, c'est pas très longtemps après.
En soupirant, Calliope s'approche de la petite fenêtre de son appartement. La nuit est claire, car c'est la pleine lune. Et le vent brûlant continue de souffler en courtes rafales. La jeune femme remarque, du côté du grand cirque tout proche, une lueur orangée qui rougit et s'élargit. De quoi peut-il s'agir ? Ce n'est peut-être pas le soleil levant, puisque la nuit est loin d'être achevée. D'ailleurs, la clarté se situe à l'ouest et non à l'est. Cet embrasement inhabituel du ciel inquiète immédiatement Calliope, car en bonne romaine, elle sait malheureusement reconnaître les prémices d'un incendie.
Arthur H. Cheval de feu.
J'ai dévalé dans les ravines, dans les prairies. Sauvage, ma vitesse, c'est l'infini, ma colère, c'est la tornade, quelque chose dans le vent me dit qu'il est temps.
Nous sommes en 64 après Jésus-Christ. La Rome d'alors est une mégalopole surpeuplée et désespérément pauvre. Le 19 juillet, la ville subit une catastrophe sans précédent.
Extrait du documentaire « Brûler Rome ».
Une étincelle embrase le cœur de l'Empire.
Alors, il se déclare pendant la nuit, ce qui explique d'ailleurs la panique et le fait que le feu se soit étendu très vite.
Catherine Salle, auteure du livre « Le grand incendie de Rome », édition Talendier, collection Texto.
Il se déclare pendant la nuit au pied du Grand Cirque, c'est-à-dire, c'est presque au centre de Rome, le Grand Cirque, c'est un espace où se déroulent les combats de gladiateurs en particulier, et les courses de chars.
Le Circus Maximus est peut-être le plus grand stade jamais construit dans l'histoire. Sa capacité était de 250 000 spectateurs. Sous ses arcades se trouvaient des estaminets et des auberges. On y faisait griller des viandes. Des feux brûlaient à toute heure dans les fours ou les braseros des marchands.
Et on peut penser que la rapidité de l'incendie vient de ce qu'il a été déclenché par une torche ou un brasero dans une de ces petites boutiques autour du Grand Cirque. Mais il va progresser très très vite.
Rome dispose d'un corps de soldats du feu, les vigiles. Ils seront en première ligne lors du grand incendie de 64, qui les laissera presque impuissants. Quelques-uns se joindront aux pillards, mais d'autres feront tout ce qui est en leur pouvoir pour limiter les dégâts.
Auguste est à l'origine de la création des vigiles. C'est une police nocturne qui lutte aussi contre les incendies. Alors eux, ils vont être complètement dépassés par l'ampleur de la catastrophe.
C'est-à-dire, ils sont pourtant très nombreux. Hein. Les vigiles, il y a deux corps de police à Rome. Il y a pendant la journée, ils sont 4000. Et ceux qui font la police nocturne ainsi que les incendies, c'est-à-dire les vigiles, eux, ils sont 7000, ce qui est quand même beaucoup pour une ville de la taille de Rome. Mais ce qui se passe, c'est qu'ils ont beaucoup de difficultés à emprunter les rues, parce que les rues sont encombrées par tous les fuyards. Il y a des fuyards de tous les âges. Il y a des gens qui entraînent avec eux une partie de leurs biens, parce qu'ils veulent sauver une partie de leurs biens. Et ils ne savent pas très bien où aller, ces gens. Parce qu'il faudrait qu'ils arrivent à une porte de Rome, ce qui est presque impossible étant donné la cohue, ou alors près d'un pont de Rome pour passer sur l'autre rive. Mais là aussi, c'est presque impossible. Donc, ces pompiers vont être gênés dans leur déplacement par cette foule énorme. C'est en pleine nuit, hein. Il faut voir aussi que ça se déclare en pleine nuit. Donc les gens ne sont pas réveillés, vraiment réveillés. Ils se jettent hors de leur lit pour aller dans les rues. Et c'est vrai qu'on ne peut pas canaliser cette foule, parce que les rues sont très étroites, en dehors des grands passages, pour les monuments. Et ces gens ont des bébés, ont des biens qu'ils veulent emporter. Et puis il y a évidemment tous les voleurs de Rome qui se sont déjà mis en action, parce qu'un incendie implique que les maisons sont abandonnées et que par conséquent, on peut aller voler tout ce qu'on veut dedans.
Geizer, tu musst achten.
Où se trouve alors Néron lors du déclenchement de l'incendie ?
Néron n'est pas très loin, nous sommes au mois de juillet, donc c'est l'été, il ne reste pas à Rome, les gens riches ne restent pas à Rome, parce qu'il fait trop chaud à Rome à cette époque-là, et Néron se trouve à Antium. Antium, c'est une petite ville, c'est sa ville natale, c'est pour ça qu'il aime beaucoup aller dans cette ville, qui se trouve à 50 km de Rome à peu près, et c'est vrai que le temps que les informateurs arrivent à Antium pour lui raconter ce qu'il passe, et le temps que lui-même fasse le retour à Rome, il a dû s'écouler au moins 2 jours. Hein. Vu la rapidité, si l'on peut dire, des moyens de transport, il a dû arriver 2 jours après le début de l'incendie.
Dieu de Rome, puissant, éternel, sous vos auspices, Rome domine le monde. Vénus, déesse de l'amour.
Oui,
Mars, dieu de la guerre. Jupiter, père de tous les dieux, et Néron, son divin fils.
Quel type d'empereur était Néron ?
Alors Néron, à ce moment-là, il a 27 ans, il a été empereur à 17 ans. Et à 17 ans, il a été l'enfant chéri de Rome. Ça, c'est vrai qu'il était beau, c'était un jeune homme, il était très ouvert à tout le monde, il discutait avec tout le monde. Mais il avait au-dessus de lui sa mère Agrippine, qui était une mère très autoritaire et qui, en fait, dirigeait l'Empire. Et Néron fait assassiner sa mère en 59. C'est-à-dire très peu de temps après son arrivée au pouvoir. Et à partir de ce moment-là, il dirige seul. Enfin, il a auprès de lui des conseillers, mais qui sont des affranchis. Et surtout, il a un grand rêve, c'est d'être le roi soleil. C'est-à-dire qu'il s'identifie avec le soleil. Il faut dire qu'il a des cheveux roux, qui roux blonds, qui donnent bien cette impression-là. Il décore tous les lieux où il habite comme le ferait un roi. Surtout, il dit toujours qu'il illumine la ville de Rome. Alors c'est le moment où il commence à être moins bien aimé de la part de ses sujets de Rome. Alors que jusque-là, ça avait été une histoire d'amour entre l'empereur et son peuple. Mais à 27 ans, il fait déjà beaucoup de choses qui ne plaisent pas à Rome.
Que va-t-il faire lors de l'incendie de Rome ?
Il a été très actif et tout à fait dans le bon sens. Lorsqu'il arrive à Rome, il va faire tout ce que ferait un chef d'État responsable. C'est-à-dire qu'il réunit un état-major de crise avec tous les responsables les plus élevés, c'est-à-dire ce qu'on appelle les préfets à Rome, en particulier le préfet des vigiles, qui est celui qui commande les troupes des vigiles. Il va discuter avec les pompiers, il ne va pas arrêter de circuler dans cette Rome en feu pendant les 10 jours que l'incendie va durer. Et en plus, il essaie de canaliser les sans-logis, tous ceux qui courent dans la ville de Rome, en leur offrant comme lieu d'asile ces jardins privés du Vatican, donc de l'autre côté du Tibre. Mais c'est un peu difficile pour traverser le fleuve, évidemment. Et puis surtout, au bout de quelques jours, il va mettre en action ce que l'on appelle de nos jours la technique de la part du feu. C'est-à-dire que pour arrêter un incendie, on sacrifie une partie du territoire où le feu va s'étendre et après, on l'arrête. Et c'est ce qu'il va faire dans Rome. Et bien entendu, ça va être très mal ressenti par les Romains parce qu'il est obligé de détruire beaucoup de maisons pour faire ça, d'avoir un espace complètement libre pour que le feu s'éteigne de lui-même.
Monumental, le grand incendie de Rome, avec Catherine Salle, auteure de nombreux ouvrages sur l'Antiquité romaine.
Cet incendie de Rome, il va durer plusieurs jours.
10 jours. 10 jours, c'est-à-dire qu'il a commencé par durer 7 jours en étant très violent, attisé par un vent en plus, un vent très violent. Et puis, au bout du 7e jour, alors qu'on pense qu'on est libéré de cet incendie, il va reprendre. Dans une partie de Rome, il va encore durer 3 jours.
Après l'incendie, c'est un spectacle de désolation.
Oui, oui. Il y a partout des décombres. Étant donné l'endroit où il a éclaté dans le centre de Rome, il y a les décombres de tous les grands monuments de Rome qui sont là, en miettes, si l'on peut dire. Il y a des morts partout, bien sûr, dans les rues, les gens qui ont été piétinés par les autres. On fait venir des chariots pour entasser ces cadavres les uns sur les autres et les faire sortir de Rome. Non, c'est vraiment épouvantable, hein, la vision de Rome, en tout cas dans le centre de Rome.
Des sans-logis aussi par la suite.
Oui, alors ça, les sans-logis, les historiens nous disent qu'il y aurait eu 250 000 sans-logis, c'est-à-dire le quart de la population de Rome. On sait que, enfin tous les historiens le disent, Rome a été divisée en 14 régions par Auguste, c'est-à-dire des équivalents d'arrondissements. Sur ces 14 régions, il y en a 3 qui ont été détruites entièrement, dont il ne reste plus rien. Ce sont les régions du centre de Rome. Ensuite, il y en a 7 qui sont assez touchées. Et enfin, il y en a 4, ce sont les régions de la périphérie de Rome qui sont intactes.
Beaucoup de morts, vous l'avez souligné.
Alors, beaucoup de morts, bien entendu, sauf que les historiens de l'Antiquité nous renseignent sur les sans-logis, nous renseignent sur les bâtiments qui ont été détruits, mais ils ne tiennent pas compte des morts. Pour eux, ça ne les intéresse pas. Il y en a eu certainement des milliers, étant donné la course du feu.
En ce qui concerne le patrimoine, c'est une perte inestimable.
Inestimable, parce que les plus grands monuments de Rome ont disparu. Ils seront reconstruits après, mais les forats, en particulier les empereurs, le forum et romain, avec toutes ces constructions, a disparu aussi. Et puis surtout, ce qui est le plus frappant, c'est que toutes les collections d'œuvres d'art ramenées de l'étranger, parce que les Romains étaient quand même très pillards dans les pays qu'ils prenaient, et toutes ces œuvres d'art ont disparu. Peinture, sculpture, tout ça a disparu, et en particulier la collection de Néron. Néron avait une collection exceptionnelle au Palatin, c'est-à-dire là où il habitait à l'époque. Tout ça, ça a disparu.
Faut le dire, Rome, c'était vraiment un musée à ciel ouvert.
Ah oui, c'était un musée à ciel ouvert. D'ailleurs, quand on voit les descriptions que fait par exemple Pline l'Ancien de tous les monuments qui sont à Rome, on voit que tous les grands monuments grecs en particulier se trouvent à Rome.
Come fresco il vento che respiro, camminando sopra un filo. You. dopo l'altro sono caduta sull'asfalto e ho sentito il mio dolore. Siamo nella stessa strada, sotto le mie scarpe ci sono le spine mentre tu calpesti pietre di diamanti. Dietro e stringo serpenti fra i denti.
Ilaria e Forni Graziano.
Ho indossato l'abito migliore, tra i capelli ho messo un fiore e il profumo era nell'aria. Ma i miei sforzi sono stati vani, i suoi occhi erano lontani con la sua celebrità. È una buona alternativa per evitare delusioni, ma la speranza è sempre in agguato e mi ha spinto in un fossato per tornare al mio dolore. Siamo nella stessa vita, ma nelle tue mani la mia sembra quasi finita. Oltre le parole ci sono occhi di pietra da lanciare contro la luna, offesa e delusa.
Monumental, le grand incendie de Rome.
Le 24 juillet, après 6 jours et 7 nuits, le feu perd de sa puissance. Mais soudain, de nouvelles flammes s'élèvent près du forum, embrasant les temples les plus anciens, brûlant aussi les œuvres d'art venues de Grèce, d'Asie et d'Égypte, qui ornaient la ville et témoignaient des conquêtes de Rome. Au terme de la catastrophe, seules 4 régions sur les 14 de la ville restent intactes. On compte les victimes par milliers.
Est-ce qu'à l'époque, on pense que l'origine de la catastrophe est en fait une punition divine ? Est-ce qu'on imagine
oui,
cela ?
Bien sûr. Oui, bien sûr.
Catherine Sall, auteure de nombreux ouvrages sur l'Antiquité romaine.
C'est le premier réflexe. Qu'est-ce que nous avons fait pour que les dieux nous punissent ainsi ? Ça, c'est la réaction du Romain de base. Et on cherche ce qu'ils ont pu faire. Et bien sûr, comme Néron n'est plus très aimé de son peuple, on commence à dire que c'est Néron qui a mis le feu. Et pourquoi aurait-il mis le feu ? C'est qu'il est en train de composer une tragédie qui s'appelle « La chute de Troie », et « La prise de Troie » plutôt, et il aurait voulu voir en vrai ce qu'était un incendie pour décrire cet incendie dans « La prise de Troie » qui, elle, a disparu à cause d'un incendie.
« Quam splendissime !»
C'est la légende qui va courir à travers les siècles. Et là, j'ai le petit livre qui a été édité de mon grand incendie de Rome. On voit sur la couverture un tableau d'Hubert Robert et on voit Néron en train de chanter sur un pont.
Reçois notre Rome, aux flammes. Consume-la, dévorante fournaise, brûle donc, antique Rome, brûle!
Nous savons, par Tacite en particulier, qu'il a été très actif pendant cet incendie pour essayer de le réduire, d'aider les gens qui étaient sans logis. Et ce n'est pas le moment où il serait allé chanter l'incendie de Troie. Mais tout le monde pense à ça, parce qu'il y a des gens qui... Vous savez, il y a des rumeurs. Et on dit, on a vu l'empereur en train de chanter. Et donc, c'est le nom de Néron qui revient le plus souvent. Et puis on connaissait aussi ses projets architecturaux.
Il voulait modifier Rome, comme avant lui César.
Oui, mais César n'a pas agrandi Rome, enfin très peu. Tandis que Néron, lui, veut faire une très grande ville. C'est-à-dire qu'il aurait prolongé, d'après ses plans, les remparts de Rome jusqu'à Ostie. Ostie se trouve à 22 km de Rome. Alors vous voyez cette énorme ville qui aurait englobé la ville de Rome, plus tout le territoire qui se trouvait entre Rome et Ostie. Et il aurait donné à cette ville le nom de Néapolis, c'est-à-dire ville nouvelle. Et certains disent même qu'il aurait voulu l'appeler Néropolis.
Certains se demandent si l'incendie de 64 n'est pas la plus grande opération de spéculation immobilière de tous les temps. Et tandis que la ville part en fumée, la rumeur se répand. La plus grande catastrophe qu'ait jamais connue Rome n'est pas accidentelle. 40 ans plus tard, l'historien Tacite écrit « Personne n'osait combattre l'incendie, car beaucoup de gens, menaçants, défendaient de l'éteindre. Et d'autres encore lançaient ouvertement des torches, en criant qu'ils avaient reçu l'autorisation d'agir ainsi, sans que l'on sût s'ils faisaient cela pour piller plus facilement, ou s'ils avaient effectivement reçu un tel ordre. »
Pour couper court aux rumeurs, Néron va chercher un coupable, et ce sont les chrétiens.
Oui, c'est-à-dire qu'il faut vraiment faire tomber la responsabilité de l'incendie sur d'autres. Et comme on pense que ce sont les dieux qui sont fâchés, évidemment, les chrétiens constituent des coupables vraiment extraordinaires. Parce que les chrétiens, ce sont des gens qui ont une religion, mais qui ne pratiquent pas le culte de Rome. Ce sont les seuls qui ne pratiquent pas le culte de Rome. Donc, ils portent atteinte à la dignité des dieux de Rome. Et c'est vrai que le chef d'accusation, nous n'avons pas tous les textes, mais il est vrai que le chef d'accusation portait sur la culpabilité qui avait entraîné cet incendie à cause de leur manque de respect des dieux de Rome. Et ce qui est intéressant pour nous, enfin les historiens, c'est que c'est bien sûr Tacite, de nouveau, qui raconte ça. Et pour la première fois dans les textes anciens, Tacite donc écrit à la fin du 1er siècle, bien après l'incendie, les chrétiens sont distingués des juifs. Alors que jusque-là, à Rome, il y avait des communautés juives. Les chrétiens, venaient s'installer bien souvent dans ces communautés. Mais en 64, les chrétiens sont distingués des juifs. Donc les juifs sont protégés. Les juifs ont toujours été protégés par l'État romain. Ils ont eu une situation tout à fait exceptionnelle à Rome. Les chrétiens, eux, une fois qu'ils se sont séparés des juifs, on peut faire d'eux ce qu'on veut.
Les chrétiens forment une secte juive dissidente. Les hommes sont circoncis, les femmes voilées. Ils ne se cachent pas, mais en dehors de quelques prophètes ou provocateurs, ils ne cherchent pas non plus à se faire remarquer. Ils se regroupent dans le quartier du Trastevere, proche du Tibre, et se recueillent dans des maisons abandonnées ou des caves d'immeubles.
Les chrétiens vont être accusés d'avoir mis le feu à Rome. C'est une accusation qui sera suivie d'un spectacle sanglant.
Oui, oui, parce que Néron était un homme de spectacle. Il donnait des spectacles à toute occasion, en tout lieu et à tout moment de l'année. Et là, il va se dire, quel beau spectacle cela va faire. Alors, on fait arrêter les chrétiens de Rome. Enfin, il y a des inspecteurs de police qui vont les arrêter. On les juge, bien sûr, ils sont tous jugés coupables. Et Néron a l'idée de faire avec ces chrétiens un spectacle qui sera donné dans les jardins du Vatican. Je vous rappelle que les jardins du Vatican, c'est la propriété impériale à l'époque, et c'est là où se trouvent tous les sans-logis de Rome, qui sont logés plus ou moins dans des tentes de fortune. Donc ils s'ennuient, ces gens-là, et on a toujours, comme ils ont plus ou moins accusé Néron, Néron se dit, il ne faudrait pas qu'il marche sur Rome. Il va faire venir les chrétiens dans il y avait un cirque privé dans le jardin du Vatican, qui avait été construit par Caligula, mais qui était un cirque impérial. Et au centre, il y a un obélisque. C'est l'obélisque qu'on voit actuellement sur place Saint-Pierre à Rome. C'est ce très grand obélisque qui est place Saint-Pierre. Donc, on habille les chrétiens de peau de bête, de peau de lion, de peau d'ours. Et on lance contre eux des chiens, enfin des molosses, des chiens qui les lardent de morsures. Et puis après, la nuit tombe, c'est là où le spectacle devient inimaginable. On prend les chrétiens qui restent, on les cloue à des croix qui se trouvent dans tous ces jardins du Vatican et on allume ces croix avec des torches. Donc, ces jardins du Vatican, il y a toute la foule de Rome, hein, tous les 100 logis de Rome. Elle va être éclairée pendant toute la nuit par ces torches humaines, en fait, qui brûlent longtemps. Enfin, ça ne se fait pas en quelques heures, ça dure longtemps. Bon, nous ne savons pas quelles ont été les réactions des Romains à ce spectacle. On peut penser qu'ils ont été très contents parce que voir tuer des hommes, ça ne les gênait pas beaucoup.
Alors aujourd'hui, ça nous choque, mais pour eux, à l'époque, c'était le spectacle.
Oui, c'était un spectacle quand même tout à fait exceptionnel, parce que d'habitude, les condamnés à mort ne venaient pas des torches vivantes. Les condamnés à mort, on les envoyait dans le cirque et ils étaient attaqués soit par des gladiateurs, soit par des bêtes féroces. Là, c'était une nouveauté. Ça n'a pas été repris par les autres empereurs, mais c'était une nouveauté, je pense, même si nous n'avons pas de réaction, qui a été très appréciée des Romains.
Néron était féroce tout de même.
Néron pensait à son propre intérêt. Néron a toujours eu peur des réactions des Romains pendant toute sa vie. Parce qu'en plus, vous savez, il n'a pas eu une vie quand même très morale. Il a commencé par faire tuer son frère Britannicus au moment d'arriver au pouvoir. En 59, il fait assassiner sa mère, c'est quand même pas rien. Et un peu plus tard, il fait assassiner sa femme. Les Romains n'appréciaient pas tellement ces assassinats à répétition. Et lui-même avait très peur, hein, parce qu'il assassinait, mais après, il passait des mois et des mois à faire des cauchemars, à avoir peur. Et il pensait que lui-même avait offensé les dieux, hein, parce que forcément, tuer son frère, sa mère et sa sœur, et sa femme, enfin, qui était aussi plus ou moins sa sœur, c'était quand même très répréhensible. Et par conséquent, il ne voit pas le côté inhumain de la condamnation des chrétiens, il ne voit que l'intérêt qu'il peut en tirer, c'est-à-dire l'adhésion du peuple romain.
Est-ce qu'après ce spectacle dramatique, oui. Ce qu'on inflige finalement aux chrétiens, est-ce que les rumeurs vont cesser concernant l'hypothétique implication de Néron dans l'incendie de Rome ?
On ne sait pas très bien parce que là nous n'avons plus de sources là-dessus. Et puis il faut dire qu'après le spectacle de Néron, qui se déroule donc en décembre 18, quelques mois après l'incendie, il va se déclencher à Rome une conjuration qui s'appelle la conjuration de Pison, dans laquelle sont entrées la plupart des grandes familles de Rome. Donc elle sera dénoncée tout à fait incidemment et Néron va se livrer là encore à l'extermination de tous ces gens. C'est-à-dire que là on voit les plus grandes personnes de l'Empire, par exemple Sénèque va être exécuté, enfin on va lui demander, comme on le faisait à Rome, on demandait aux condamnés à mort de grandes familles de se suicider. C'était ça qui était la condamnation à mort. Et c'est vrai qu'on va être tellement préoccupé par cette conjuration de Pison qui met en scène tous les Romains, alors de la haute société. L'incendie, c'était les Romains du peuple. Là, ce sont les Romains de la haute société. Que Néron va s'efforcer de façon extrêmement cruelle, d'ailleurs, d'éliminer tous ses conjurés. Et après, il en a tellement assez qu'il part de Rome et il part en Grèce. Il va faire une tournée artistique en Grèce parce qu'en plus, il estimait être un très grand poète. Et sa tournée artistique va durer un an et demi. Donc pendant un an et demi, il est libéré des Romains. Et quand il revient à Rome, c'est là où il va être obligé de se suicider. Enfin, bon, ça c'est plus tard.
Le grand incendie de Rome.
La société romaine s'ouvrait au monde et perdait ses repères. Les sénateurs, qui l'en tenaient pour responsable, détestaient Néron. Mais pour l'accuser d'avoir fait brûler Rome, il fallait bien qu'il eût un motif. Le mobile du crime était là, sur le forum, où les pères fondateurs avaient bâti les symboles mêmes de ce temps où Rome était encore Rome, ces temples qui célébraient la domination des valeurs traditionnelles. Et voilà que Néron voulait donner à la ville un nouveau visage.
Après l'incendie de 64, Rome doit se reconstruire. Quelles vont être les différentes étapes ?
C'est-à-dire que c'est très difficile de reconstruire une ville qui a presque disparu. Alors on va effectivement reconstruire les immeubles, c'est quand même le plus urgent pour que les gens puissent loger.
Catherine Salle, auteure de nombreux ouvrages sur l'Antiquité romaine.
Alors on donne des primes à la construction, enfin on fait ce qu'il faut pour que ces immeubles, ce qu'on appelle des insulae à Rome, ce sont des immeubles de plusieurs étages, hein, généralement très mal construits. Mais on va pousser à la construction. Néron a promis des primes pour tous ceux qui reconstruiraient. Il a même promis de reconstruire lui-même une partie des bâtiments. En fait, il ne le fait pas parce que ça coûte tellement cher qu'il ne peut pas le faire. Enfin, il a d'autres utilisations de son argent. Et il en fait une obligation, la reconstruction de Rome, imposée à toutes les cités de l'Empire. C'est-à-dire toutes les villes de l'Empire vont devoir participer à cette reconstruction. En particulier, la ville de Lyon a donné un don extraordinaire, 4 millions de sesterces. C'est quand même un don extraordinaire.
Donc les financements viennent de l'extérieur.
Oui, mais imposés, hein, parce qu'il ne faut pas croire que les gens donnaient, que c'était une œuvre de charité, qu'on disait participer à la reconstruction de Rome. Non, on disait tu dois payer tant d'impôts.
Ça devait être une reconstruction incroyable.
Ben oui, puisqu'il y avait à la fois les immeubles, l'habitation proprement dite, et puis il y avait aussi tous ces monuments qui avaient disparu. Et Néron abandonne l'idée de sa Néapolis. Ce n'est pas le moment de faire ça, étant donné la situation de Rome. Il va d'ailleurs donner des principes urbanistiques qui sont tout à fait valables, puisque pour prévenir les incendies, il va falloir que dans tous les immeubles, il y ait des sources d'eau, c'est-à-dire des tonneaux avec de l'eau. Il va falloir que la pierre de taille soit utilisée pour les premiers étages de ces immeubles, qui étaient faits jusque-là en bois, généralement, ou en torchis. Donc très inflammable. Et puis, il va demander que les rues soient élargies pour qu'il n'y ait pas de murs mitoyens entre deux immeubles, ce qui était le cas jusque-là. Donc, ce sont de très bons principes. Mais on voit bien, dans les années qui suivent, que tous ces principes n'ont pas été reconstitués. L'intérêt des constructeurs est de construire le plus possible d'immeubles, donc faire des intervalles entre les immeubles, ça ne va pas, élargir les rues, ça ne va pas. Et c'est vrai qu'il y a certains endroits où ça a été fait, mais bon, à Rome, ça n'a pas été fait partout.
Ça a dû être un chantier incroyable et perpétuel, ça a dû durer des années.
Ça a duré des années, et surtout, ça va être repris par Vespasien, l'empereur qui succède à Néron, à partir de 70 après Jésus-Christ, bien sûr, toujours. Et ça sera à peine terminé en 80, lorsque les fils de Vespasien vont arriver au pouvoir. Donc vous voyez, on est presque à 20 ans de reconstruction et ce n'est pas encore terminé.
Ah oui. Et si je comprends bien, tu mets les jardins du palais là où est l'actuel marché aux bestiaux.
Oui, divinité. Chaque palais surgira de son lac que sillonneront des oiseaux aquatiques du plus rare plumage.
L'Erlan, nos éus des bœufs et des cochons n'empesteront plus les pentes du Palatin.
Non, elles seront tapissées des plus belles roses de Syrie.
Oh, Faon, tu es un architecte digne d'avoir conçu les plans de l'Olympe. Où est Pétrone ? Oh, je brûlais d'impatience de te voir.
Sans toi, je m'ennuyais, divinité.
Contemple, cher Pétrone, ma nouvelle Rome. Elle s'élèvera dans sa blanche et radieuse beauté. Pierre la plus pure de la couronne du monde. Elle recevra un nom nouveau. Néropolis, la cité de Néron.
Magnifique, gloire à toi, divinité.
Elle n'aura jamais rien vu de pareil.
C'est cela, mon épopée. Changer la face du monde. Démolir et créer de nouveau.
Néron, vous l'avez dit, il ne va pas pouvoir reconstruire comme il le souhaitait.
Non, il ne peut pas faire. Puis surtout, il se rend compte qu'il y a un très grand espace qui a été dégagé par les incendies. Ce très grand espace qui est au centre de Rome, en fait, qui va du Forum romain jusqu'au Palatin d'un côté et puis les quartiers du nord de Rome. Et bien entendu, il y a 2 kilomètres de long, de surface sans aucune construction. 80 hectares, c'est quand même très important. Et cette surface énorme, il va dire, c'est moi qui vais en profiter. Et c'est là où il a l'ambition de faire construire une demeure exceptionnelle qu'il va appeler la Domus Aurea, la maison d'or, ou la maison dorée, comme vous voulez. Mais enfin, c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'or utilisé dans la construction de cette maison dorée. Il veut en faire le palais extraordinaire du soleil. C'est-à-dire que tout doit rappeler le soleil. En particulier, il y a la salle à manger qui tourne sur elle-même selon les heures de la journée et selon les saisons. Et bien, le dôme qui couvre cette salle à manger est tout en or. Il va aussi faire édifier à l'entrée de la maison dorée ce qu'on appelle le colosse, c'est-à-dire une statue de 35 mètres de haut, vous voyez, c'est quand même énorme, qui est la statue du soleil. Théoriquement, la tête est couverte de rayons comme le soleil, mais la tête est celle de Néron. C'est-à-dire qu'on voit pour la première fois l'identification que fait Néron avec le dieu Apollon, le soleil. Et il va, à l'intérieur de cette maison dorée, qui est immense, je vous dis, sur 2 kilomètres de long, hein, tout n'est pas rempli par des bâtiments, vous avez un microcosme qui a été fait. C'est-à-dire qu'il a fait représenter tous les paysages qu'on pouvait voir dans l'Empire romain. Les villes, les montagnes, les lacs, tout ce qu'on pouvait voir. Donc on a vraiment un petit microcosme avec des productions de tout ce que l'on produisait dans l'ensemble de l'Empire romain.
La Domus Aurea est un festival pour les sens. Les historiens antiques parlent de murs incrustés de pierres précieuses et de décorations à la feuille d'or. Les plafonds étaient couverts de panneaux d'ivoire qui s'ouvraient et répandaient du parfum et des pétales de fleurs sur les invités.
Néron, est-ce qu'il va vivre dans ce palais, dans cette maison dorée ?
Non, parce qu'elle ne sera pas terminée de construire. Il part, je vous ai dit, l'année qui suit le début de la construction. Quand il revient en 68, bon, il va se suicider. C'est à peine achevé. Enfin, est-ce qu'il a effectivement habité une des chambres de cette maison dorée ? Mais on n'est même pas sûr. Et donc, il se suicide en 68. Là, bon, il y a les 4 empereurs qui se suicident, Vespasien arrive au pouvoir en 70 et il fait détruire tout ce qu'était la maison dorée. Et en particulier, là on connaît quand même, il va garder le colosse, le fameux colosse de 35 mètres. Il va lui mettre la tête du soleil, et non plus la tête de Néron. Et ce colosse, à côté de ce colosse, dans l'espace qui a été laissé libre, il va construire le Colisée, l'immense amphithéâtre de Rome qui est construit là. Et c'est pour ça qu'il s'appelle Colisée, à cause du Colosseo qui est à côté.
Pour en revenir à la maison dorée de Néron, qui va financer ces travaux incroyables ?
Les Romains, les provinces. Il avait beaucoup d'argent, mais c'est vrai qu'il s'appuyait beaucoup sur les autres pour financer ses travaux. Il y avait à l'intérieur, d'après les descriptions qui nous en sont faites, une décoration exceptionnelle. Il a fait de nouveau venir de Grèce, d'Asie mineure, d'Égypte, de toutes ces terres, où il y avait encore quand même des œuvres d'art. Il va faire venir toutes les œuvres d'art qui se trouvaient dans ces pays. Il va envoyer des inspecteurs pour faire le bilan de tout ce que ces provinces orientales contenaient encore comme œuvres d'art. Et on va les faire revenir à Rome. C'est pour ça qu'on trouve, à l'emplacement où il y avait la maison dorée, on trouve encore quelques œuvres extraordinaires, des œuvres, mais qui sont enfouies dans le sol.
Comment ces travaux pour la maison dorée sont-ils perçus par les Romains ?
Très mal, parce que c'était un grand espace, je vous ai dit, un espace où il y avait certainement des monuments, mais aussi des immeubles. Et par conséquent, les Romains qui sont sans logis, encore à cette époque-là, ressentent ça comme un affront à leur propre pauvreté. C'est-à-dire qu'au lieu de construire des immeubles, on construit des bâtiments extraordinaires avec des mobiles un peu partout, avec des peintures qui sont magnifiques, des mosaïques. Et surtout, ce qui est tout à fait extraordinaire de la part de Néron, ça on peut le mettre à son actif, c'est qu'il n'a pas voulu employer des ingénieurs et des architectes asiatiques et grecs, comme on le faisait d'habitude. Il va prendre uniquement des Romains, c'est-à-dire qu'il va faire appel à la main-d'œuvre locale.
Aujourd'hui, est-ce qu'on peut voir quelque chose de cette maison
dorée ?
Alors,
on pouvait la voir il y a encore quelques années. Moi, j'ai vu ce qu'on pouvait voir, c'est-à-dire un pavillon d'agrément qui était composé de 2 longues ailes, l'une carrée, l'autre hexagonale. Mais je crois que maintenant, on ne peut même plus voir ça. Je crois que c'est interdit. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir le visiter, mais c'est interdit parce qu'on a peur que les gens abîment. Vous savez, il y a des restes de peinture, et les gens, les visiteurs ne sont pas très respectueux des œuvres de l'Antiquité.
Monumental.
Catherine Salle, pour en revenir à la construction de Rome après l'incendie de 64, Certains vont critiquer les reconstructions. Je prends le cas de Tacite qui va écrire « Notre ancienne ville était bien préférable pour notre santé ». En effet, dans ces rues étroites bordées de hauts immeubles, on ne sentait pas les ardeurs du soleil qui ne nous importunait pas. Maintenant, à cause de ces vastes espaces où il n'y a aucune ombre, la chaleur du soleil provoque des maladies. Qui nous rendra notre vieille ville ?
Oui, ça, ce sont les vieux gracheux qui disent ça. Ils disent, avant, on était à l'ombre parce que comme les maisons se touchaient presque, les ruelles étaient tellement étroites, comme on peut encore d'ailleurs en voir à Rome actuellement ou à Naples, et bien que les maisons se touchant presque, on pouvait se promener dans ces rues en n'étant pas gêné par le soleil. Tandis que maintenant, il a fait agrandir les rues, mais vous savez, ça n'a pas été fait pour beaucoup de rues. Il y a eu quelques rues qui ont été agrandies. Et donc les vieux gracheux disaient, nous allons attraper des maladies.
Est-ce qu'il va y avoir un traumatisme à la suite de ce grand incendie de Rome de 64 ?
Oui, parce que c'est le seul dont on parle tout le temps, alors qu'il y en a eu beaucoup d'autres à Rome. Je vous dis, en 80, il y a eu un incendie aussi grand, qui a détruit, je crois, à peu près autant, tout ce qui était en reconstruction à ce moment-là. Et on ne connaît cet incendie que par des inscriptions, rappelant qu'un tel est mort lors de cet incendie, ou qu'on a fait des prières aux dieux lors de cet incendie, mais aucun historien n'en a parlé. Parce que celui qui était le plus intéressant, c'était l'incendie de Rome, parce qu'on pouvait accuser l'empereur d'en être responsable, ce qui n'était pas le cas pour l'incendie de 80.
Néron, il faut le dire, n'est pas l'auteur de la catastrophe, non, mais c'était le coupable idéal pendant des années et des années.
Pas l'auteur. D'ailleurs, quand vous lisez les textes anciens et quand vous lisez les textes modernes sur Néron, la plupart du temps, on dit Néron a provoqué l'incendie de Rome. Non, à l'heure actuelle, aucun historien ne pense que Néron a provoqué l'incendie de Rome. C'est probablement un incendie accidentel. Il y avait un vent énorme, il peut y en avoir au mois de juillet. Il y a sans doute une torche ou un brasero, parce que les gens se faisaient leur nourriture sur des braseros. Et un brasero qui était du côté du Grand Cirque et qui s'est renversé peut-être. Et à ce moment-là, c'était des magasins essentiellement de vêtements et de blé. Donc tout ça a brûlé effectivement très vite.
Mais pourquoi est-ce que Néron a été le coupable idéal pendant des siècles ?
Parce que les Romains l'ont dit, parce que les historiens qui parlent de cet incendie, c'est-à-dire Tacite essentiellement, et puis un petit peu Suétone, n'étaient pas du tout favorables à Néron. Donc ils ont pris les on-dit sur Néron. Ils ne disent pas d'ailleurs qu'il est l'auteur de la catastrophe. Tacite, par exemple, dit « Certains disent que Néron a lui-même allumé le feu ». Mais bon, il ne va pas plus loin.
Et Tacite, c'était pas un enfant au moment des faits ?
C'était un enfant, oui, puisque sa vie d'homme se déroule à la fin du 1er siècle. Oui,
donc finalement, il colporte une rumeur qu'il a entendue enfant.
Voilà,
mais ça suffit.
Il prend ses précautions parce que c'est un historien sérieux. Certains disent que, mais après il dit « ça me semble quand même invraisemblable
». La Rome reconstruite après l'incendie de 64, est-ce que c'est un petit peu ce que l'on voit aujourd'hui au sein
de
Rome ?
Oui, c'est ce que vous voyez aujourd'hui, parce que vous avez quand même le Colisée, qui est à l'époque la construction la plus spectaculaire du règne des Flaviens, de Vespasien, de Titus et de Domitien, c'est-à-dire les trois Flaviens. Et puis alors, vous avez de nouveaux grands espaces artistiques, comme par exemple, il va y avoir deux nouveaux forums, qui eux, alors, seront vraiment construits par les Flaviens, et puis au siècle d'après, quelques années après, il va y avoir le forum de Trajan, qui alors là est une construction extraordinaire, dont il ne reste pas grand-chose, mais qui a été une construction extraordinaire. Et il y a beaucoup de monuments, mais dont il ne reste pas grand-chose à l'heure actuelle, dont on vous dit ça a été construit à l'époque flavienne.
Et donc juste après l'incendie, enfin dans les années qui ont
oui,
suivi en tout cas.
Oui, enfin dans les années 80-90 quoi. D'ailleurs, ceux qui ont vécu sous le règne de Vespasien à Rome sont exaspérés par les convois de chariots qui apportent à Rome des pierres pour reconstruire ces monuments. Et comme ces chariots portant des pierres n'avaient pas le droit de circuler pendant la journée parce qu'elles auraient provoqué des embouteillages, elles circulent la nuit. Alors je vous dis pas la nuit, ceux qui voulaient dormir à Rome ne pouvaient pas dormir à cause du bruit de ces chariots rapportant des pierres de taille en fait.
C'est incroyable quand même comment Rome a été continuellement un chantier.
Ah oui, tout à fait, oui.
Et embellie aussi, pas seulement un chantier.
Et embellie. Mais déjà, Auguste et Agrippa avaient fait beaucoup, hein, puisque Agrippa avait quand même réoccupé le champ de Mars, et c'est là où il a fait de très belles constructions. Et puis, il y a l'hôtel de la paix d'Auguste, enfin, il y a beaucoup de choses qui ont été construites à cette époque-là. Il y a des thermes, on ne les voit plus, mais enfin, il y avait des thermes aussi, les thermes d'Agrippa. Alors après, ce seront les thermes des Flavia. Il y aura des thermes à l'emplacement de la Maison Dorée, mais on ne peut plus les voir de nos jours. Et après, les autres thermes seront plutôt à l'extérieur de Rome. Mais c'est vrai que tous ces hommes, qui avaient lu les auteurs grecs surtout, étaient très intéressés par tout ce qu'avaient fait les Grecs dans les villes où ils habitaient.
Au lendemain du grand incendie de 64, une nouvelle ville va naître. Plus grande, plus monumentale, plus belle. On améliore l'urbanisme. On reconstruit avec du mélèze qui résiste mieux au feu. On évite le travertin qui se fissure sous l'effet de la chaleur. On ajoute de l'espace et de la lumière entre les immeubles. Néron aura bien créé la ville nouvelle dont il rêvait et qu'embelliront encore ses successeurs après que la folie l'aura conduit au suicide en 68. Sur les cendres de Rome, grâce à Néron, naîtra une grande religion. Les supplices que l'empereur aura ordonnés vont pousser les chrétiens vers les catacombes. Croyance persécutée, le christianisme trouvera dans le sacrifice la grandeur de son destin. Néron, au prix du sang, aura fait sortir de l'indifférence cette petite secte juive à laquelle, à Rome, personne ne s'intéressait.
Aujourd'hui dans Monumental, nous nous sommes intéressés au grand incendie de Rome. Notre invitée était Catherine Salle, auteure d'un livre sur le sujet. Toutes les références sont à retrouver sur notre page internet. Là, vous trouverez également archives, documentaires, informations supplémentaires, ainsi que le lien direct pour aimer la page Facebook de Monumental.
rts.ch/monumental.
Quand de tout vous serez là, juste un canal à traverser, rejoignez-moi à Elior. Avant que la vie ne se défile, avant de gagner l'autre bord, rejoignez-moi. Veste pendue au pater et l'immuable pour bréviaire, les tracés blancs sur la chaussée, fourmillement de mille pensées, les galeries à ciel ouvert, où vont les figurines pressées. Canal à traverser, rejoignez-moi à Elior. Avant que la vie ne se défile, avant de gagner l'autre bord, rejoignez-moi. Semaine à négocier. Oh Dieu, que ce silence rend fou. Dans la brume en pièces détachées, qu'avons-nous encore à cacher? Quand il reste si peu de nous. Oh Dieu, que ce silence rend fou. Libère nos cellules, comme alors l'air est minuscule, même l'air.
Vertigo, c'est dans quelques instants sur la première. Auparavant, l'information trafic.
Info trafic RTS.
Sur l'autoroute Lausanne-Genève, les premiers ralentissements pendulaires sont signalés entre l'échangeur d'Écublens et Morges-Ouest en direction de Genève. Sur l'axe Lucerne-Chiasso, des colonnes de 2 km s'étendent à l'approche du portail nord du tunnel du Gothard en direction du Tessin, ce qui correspond à un temps d'attente de 20 minutes environ. Et en sens inverse, un bouchon s'est également formé à l'approche de l'entrée sud du tunnel du Gothard en direction de Lucerne, soit un temps d'attente d'un quart d'heure environ. L'autoroute Neuchâtel-La Chaux-de-Fonds est fermée jusqu'au 12 août à 20h entre Boutevilliers et La Chaux-de-Fonds en raison de travaux dans les tunnels. La circulation est déviée par la vue des Alpes. L'inforoute en continu, c'est aussi sur l'application RTS Trafic.
Infotrafic RTS en collaboration avec les CFF et le TCS.
C'était Monumental avec Johan Dusset que vous retrouverez demain pour une rediffusion. Direction la ville aux 100 clochers, Prague. C'est bientôt l'heure de Vertigo avec aujourd'hui le chanteur Bertrand Beats. Après les infos.
L'heure avec les cerises suisses de votre région, suissefruit.ch.
Vous écoutez la première, il est 17h.